Bonsoir mes sœurs, bonsoir chers amis, merci à tous qui nous suivent par les moyens modernes de communication. J'ai intitulé ma petite intervention comme « La petite voix d'une brûlante actualité ». Comme vous le savez, nous avons choisi, nous les frères Carmes, d'animer cette neuvaine à partir de l'exhortation apostolique du Saint-Père intitulée « C'est la confiance ». Lors de sa lecture, j'ai été interpellé en un premier temps par le paragraphe intitulé « Un feu au milieu de la nuit ». Je lis le texte. Thérèse a vécu la foi la plus forte et la plus certaine dans l'obscurité de la nuit et même dans l'obscurité du calvaire. Son témoignage a atteint son apogée dans la dernière période de sa vie, dans sa grande épreuve contre la foi qui commença à Pâques 1896. Dans son récit, elle met cette épreuve en relation directe avec la douloureuse réalité de l'athéisme de son temps. Elle a vécu, en effet, à la fin du XIXe siècle, « âge d'or » entre guillemets, de l'athéisme moderne en tant que système philosophique et idéologique. Lorsqu'elle écrit que Jésus avait permis que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, elle désigne les ténèbres de l'athéisme et le rejet de la foi chrétienne. En union avec Jésus, qui a pris sur lui toutes les ténèbres du péché du monde en acceptant de boire la coupe de la passion, Thérèse perçoit dans ces ténèbres le désespoir, le vide du néant. Elle a vécu, en effet, à la fin du XIXe siècle, âge d'or de l'athéisme. L'expression m'a surpris, car spontanément, ce n'est pas ainsi que j'aurais qualifié cette époque. Je lui aurais préféré les termes de « préfiguration » ou « homme d'une ère nouvelle ». Thérèse est une enfant de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire qu'elle découvre le développement des transports, notamment du chemin de fer, les débuts de l'électricité domestique, des choses éminemment banales pour nous, mais qui vont profondément changer la société d'alors. Mais il est préférable d'écouter sa voix, notamment dans le manuscrit C, pour savoir comment elle vit cette époque et surtout comment elle la traverse, c'est ce qui a inspiré la réflexion du Saint-Père. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle ne devait s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondé, transfiguré par le brillant soleil. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles. Je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis. C'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont point compris que ce divin roi était la lumière du monde. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur. Et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi, ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. » Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Je disais que la certitude d'aller un jour, loin du pays triste et ténébreux, m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, mais encore je sentais au fond de mon cœur des aspirations vers une région plus belle. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé, ainsi je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi : tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ses merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Mère bien-aimée, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne peux pas en écrire plus long. Je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit. J'ai longuement donné la parole à Thérèse afin, d'une part, de contextualiser la citation du pape François, mais aussi pour rappeler que la question de l'athéisme ne date pas d'aujourd'hui, même si elle se manifeste différemment. C'est le point que je voudrais aborder maintenant, et je l'aborderai plutôt sous l'angle sociologique que spirituel. Je n'aurai que trop d'appréhension à m'hasarder sur ce terrain après avoir longuement cité Thérèse. Je vous propose de commencer par évoquer la situation religieuse contemporaine, caractérisée par la désinstitutionnalisation des identités, ce qui doit nous inviter à la prudence à l'égard du rapport au christianisme et qui révèle quelque chose d'une nouvelle culture. Celle-ci invite à la distance dans la prise en compte du modèle précédent comme référent. On ne peut déduire hâtivement, comme peuvent le laisser entendre certains ouvrages, que nos sociétés sont sorties du christianisme. Je trouve plus opportun de parler d'une méfiance à l'égard des institutions religieuses. Il demeure un sentiment religieux, mais qui ne s'exprime plus spontanément au sein de l'Église. Cela se repère à divers signes. Durant les dernières décennies, le nombre de gens se déclarant chrétiens a diminué singulièrement au profit de gens se présentant sans religion. Pour autant, parmi les enquêtes que l'on peut lire ou entendre de ci de là, on révèle que plus d'un tiers croit à quelque chose après la mort. Un autre tiers prie et se recueille régulièrement, là où d'autres se contentent de croire au miracle. La baisse du taux d'appartenance objective n'empêche pas les pratiques. Ce qui gêne, c'est leur institutionnalisation. Dans les faits, cela se traduit par une baisse notoire depuis la fin de la dernière guerre d'une pratique hebdomadaire au profit d'une pratique plus occasionnelle ou circonstancielle. Cela renvoie à la signification de la pratique régulière dans une société où la pression sociale a disparu. Les gens dissocient être pratiquant et assister à la messe régulièrement, avec comme conséquence directe que l'engagement auprès des personnes les plus démunies est devenu prioritaire. Ceci peut signifier que l'Église est ravalée au rang d'une institution qui s'occupe du salut, car dans la prise en compte des problèmes moraux, sociaux, familiaux, elle ne répond plus aux besoins qui se manifestent maintenant. La pluralisation des identités à laquelle on assiste en ce moment, source de perplexité pour beaucoup, fait que l'on préfère se bricoler des croyances en fonction de nos accords, accointances avec elles, donnant ainsi des cheminements chaque fois singuliers dans un monde toujours plus complexe. Deux raisons me semblent expliquer ce pluralisme. D'une part, la structure du monde moderne qui, avec l'élargissement du marché religieux, offre 1000 possibilités et donc autant de solutions aux problèmes qui se présentent. D'autre part, la mobilité des gens induit une perte de l'ancrage individuel. Mais peut-être que le problème majeur se situe au niveau de l'affaiblissement du noyau familial qui transmet la foi. L'identité de la famille a beaucoup évolué ces dernières décennies. Elle n'est plus la cellule de base de la société. Elle est devenue une relation affective, voire contractuelle. En d'autres termes, révisable, changeable, avant tout destinée à l'épanouissement personnel. L'individualisme fait dire l'enfant choisira, alors que l'on sait qu'il est plus facile de se détacher que de découvrir quelque chose que l'on n'a pas reçu. Tout ceci conduit à un subjectivisme qui repose sur la conviction qu'il appartient à l'individu de donner lui-même sens à sa vie. Ce qui importe, c'est de dissocier la sphère publique et privée. Ainsi, refuse-t-on à ce que l'Église interfère dans le privé. D'ailleurs, même parmi les catholiques pratiquants, ils s'en trouvent pour déclarer ne pas tenir compte de ce qu'enseigne l'Église au moment de prendre une décision importante. Parce qu'elle ne croise plus leur aspiration, qu'elle ne fait plus sens ou est devenue largement illisible. À chacun de voir. En fait, on est moins dans une logique d'appartenance que d'une recherche de sens individuel. On sélectionne ses croyances en prenant, hélas, ce qui convient, rejetant ce qui dérange. À ce propos, il est intéressant de noter l'écart entre ceux qui croient au ciel et à l'enfer. On adhère aux croyances source de paix pour délaisser celles qui inquiètent, voire celles qui tout simplement nous interrogent. Ceci amène des confusions entre, par exemple, la résurrection et la réincarnation. On est plus dans le psychologique que le dogmatique, ignorant la cohérence des articles de foi entre eux. Ainsi, court-on le risque de ravaler Dieu à une énergie, occultant qu'il est un être de relation qui veut entrer dans une relation personnelle intime avec sa créature. Ceci est en concordance avec une culture qui considère que la religion rend fort. Nous quittons le champ de l'objectivité d'une croyance pour celui de l'intérêt individuel, le côté utilitaire. Cela avec en arrière-fond le relativisme. Il ne signifie pas que toutes les vérités se valent ou qu'aucune ne vaut, mais c'est au sujet individuel de déterminer la valeur d'une croyance. Ainsi, il m'incombe de la dire pour moi, n'ayant aucune autorité à la dire pour autrui. Désormais, toute vérité est relative à celui qui en fait l'expérience, c'est-à-dire, il y a la vérité de la valeur dans l'éthique, mais ce qui est vrai, c'est ce qui est parvenu à avoir de la valeur dans mon horizon. Ainsi, la valeur d'une vérité dépend de la relation que j'entretiens avec elle. La question de la manifestation du relativisme tourne autour de la probabilité qu'une seule religion puisse être vraie. Dans le passé, en période de chrétienté, naître, devenir chrétien, semblait aller ensemble. La foi se transmettait avec l'ambiance culturelle. Elle faisait partie des évidences communes. Il y a désormais un déplacement du critère de vérité, subordonné aux fruits qu'il donne. On quitte la logique d'appartenance pour celle du conséquentialisme, entre guillemets. Mais je le redis, il s'agit d'un constat personnel et en aucun cas d'une lecture spirituelle comme nous en donne Thérèse. Alors comment sortir de ce qui apparaît bien souvent comme une impasse, face notamment au défi de la chute des vocations ? En restant dans le champ de la sociologie, je voudrais faire une proposition via le biais de la banalité. Je sais qu'elle n'a pas bonne presse et que pour beaucoup, elle est juste un synonyme de la médiocrité. Je sais par ailleurs qu'avec beaucoup de clairvoyance, l'artiste américain Andy Warhol avait prédit dès la fin des années 60 qu'au XXIe siècle, tout homme devrait avoir son quart d'heure de gloire. On voit aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à quel excès cette prédiction nous conduit. Mais au fait, c'est quoi la banalité ? D'abord, de l'incompréhension pour ceux qui ne comprennent pas qu'il s'en est trouvé pour en faire son éloge. Le thème peut surprendre, non par son sujet, mais par rapport à un point de vue qu'il faudrait adopter sur la banalité, en l'occurrence, un point de vue favorable. Sachant que la banalité est moins une situation que l'on vit qu'une situation de réalité, pour tout dire, cette sensation par laquelle je vérifie que je ne peux pas en faire continu l'expérience de l'extraordinaire, l'expérience d'une vie qui serait à tout instant formidable, incomparable, arrachée à l'ordinaire de la médiocrité. Bref, débanaliser. Pour aller un petit peu plus loin dans mon propos et pour avancer, et pour donner une autre couleur, je donnerai la parole à une sociologue, à Isabelle Thiré. La banalité comme oscillation entre l'archétype et le stéréotype prend ici toute sa valeur, celle de l'anamnèse qui, dans l'œuvre créatrice, comme dans la vie quotidienne, permet de restituer un concentré du passé, de lutter contre la fuite du temps, de valoriser l'événement comme un avènement. Faire l'éloge de la banalité, c'est faire l'éloge du non-avènement, l'apologie de la vie quotidienne, au sens où la vraie vie se situe au cœur même du quotidien. Illustration de la banalité qu'illustre l'art de la fin du XXe siècle avec des collections d'images banales, de gestes inutiles, l'art du presque rien. Retour à la réalité dans ce qu'il y a de plus élémentaire. D'où une stratégie de réévaluation que l'on va essayer de transfigurer. Au-delà d'une situation à considérer, c'est plus l'expression de la sensation qui se vérifie et qui serait plus du domaine de l'extraordinaire, en quelque sorte, débanalisé. Autrement dit, les instants se suivent, mais ne font pas événement. Pour qu'un événement fasse avènement, il faut que quelque chose advienne, sorte de la banalité. De fait, tant que l'extraordinaire n'a pas surgi, il n'existe pas d'avènement. C'est donc un jour particulier, une capture de l'instant, présent en opposition au temps historique, en congruence avec l'esprit du temps. L'intérêt d'à présent, être dans, participer à la création du monde dans toute sa touffeur et sa légèreté, fondement même de la banalité. Une présence immuable, en même temps toujours à habiter. Je vais y revenir dans un instant, mais je veux d'abord redonner la parole au Saint-Père avec le paragraphe intitulé « Le plus grand amour dans la plus grande simplicité ». À la fin de l'histoire d'une âme, Thérèse nous livre son offrande comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. En se livrant pleinement à l'action de l'Esprit, elle reçoit sans bruit ni signe particulier la surabondance de l'eau vive, les fleuves, ou plutôt les océans de grâce qui sont venus inonder mon âme. C'est la vie mystique qui, même dépourvue de phénomènes extraordinaires, est proposée à tous les fidèles comme une expérience quotidienne de l'amour. Thérèse vit la charité dans la petitesse, dans les choses simples, les plus simples de la vie quotidienne, et elle le fait en compagnie de la Vierge Marie, en apprenant d'elle qu'aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. En effet, alors que les prédicateurs de son temps parlaient souvent de la grandeur de Marie de manière triomphaliste, éloignée de nous, Thérèse montre, à partir de l'Évangile, que Marie est la plus grande dans le royaume des cieux, parce qu'elle est la plus petite, la plus proche de Jésus dans son humiliation. Elle voit que, si les récits apocryphes sont remplis de passages frappants et merveilleux, les Évangiles nous montrent une existence humble et pauvre, vécue dans la simplicité de la foi. Jésus lui-même veut que Marie soit l'exemple de l'âme qui le cherche avec une foi dépouillée. Marie a été la première à vivre la petite voie dans la foi pure et humiliée. C'est pourquoi Thérèse n'a pas peur d'écrire « Je sais qu'à Nazareth, Marie, pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus, point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellisse ta vie, ô reine des élus. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. Marie a été la première à vivre la petite foi, la petite voie dans la foi pure et l'humilité. Elle est forte, l'expression du Saint-Père. Je voudrais terminer cette intervention en donnant la parole à l'évangéliste Jean. Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » C'est Jean chapitre 1. « Et voir quoi a-t-on envie de questionner ?» Rien, précisément, de ce qui se voit à l'œil nu. Car, comme le dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, ce qui se voit est provisoire. Ce qui ne se voit pas est éternel. Par rapport au mystère incompréhensible pour nous aujourd'hui, que représente la vie cachée de notre Seigneur durant 30 ans dans ce que nous nommerions facilement aujourd'hui un trou perdu. Saint Irénée avance l'idée dans son traité contre les hérésies que c'est le temps que Dieu se donne pour s'habituer à l'homme et l'homme à Dieu. Alors pour conclure, que dire? Peut-être proposer de reprendre l'antienne du psaume invitatoire des Laudes du temps de Carême. Les yeux fixés sur Jésus-Christ entreront dans le combat de Dieu. En n'oubliant jamais ce que dit saint Grégoire le Grand, nous sommes réellement présents là où nous dirige le regard de notre cœur. Et peut-être qu'en cette neuvaine et avec Pentecôte que nous fêterons dimanche prochain, on peut demander à Thérèse qu'elle nous obtienne la grâce de nous livrer comme elle le fit pleinement à l'action de l'Esprit-Saint. Merci pour votre attention.